Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages.
Allez, on y va, ça passe. D'envoi de misaine.
Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
Vas-y, on prend en vent. Allez, plus vite.
Bonjour à tous. Cette semaine, on va voyager sur la planète bleue, hisser les voiles et partir à la rencontre de peuples aux pieds marins qui vivent de l'eau, sur l'eau et sur tous les rivages du monde. En compagnie du navigateur français Marc Tiercelin et du réalisateur Ludovic Fossard, qui ensemble ont signé deux saisons documentaires pour la chaîne franco-allemande Arte, à la rencontre des peuples des mers, et plus récemment un livre paru chez Glénat qui porte le même nom. Peuple des mers, derrière ce vocable on trouve les Moken de Thaïlande, les Langa Langa des îles Salomon, les Tofins du Bénin, les Kanaks de Nouvelle-Calédonie, les Bijago de Guinée-Bissau ou les Cham du Vietnam. Au total, Marc a rencontré une trentaine de communautés qui ont la mer et les eaux en partage. Et avec lui et Ludovic Fossard, on va voyager de rivage en grand large. Un voyage qui débute face à un étonnant bateau unique au monde, à la forme magique, qui nous rappelle que les astres et la mer sont étroitement liés.
Au sud du Bangladesh, de drôles d'embarcations sillonnent depuis plus de 500 ans les eaux du golfe du Bengale. Le peuple Djela les appelle les bateaux-lunes. Ces embarcations à la coque arrondie sont leur seul moyen de pêcher dans les eaux poissonneuses de l'océan Indien. Une ressource indispensable à leur survie. Employés par de riches propriétaires, rares sont ceux qui possèdent une embarcation. Beaucoup de ces hommes poursuivent le même rêve, acquérir leur propre bateau-lune dans l'espoir d'une vie meilleure.
Marc Tiercelin, Ludovic Fossard, bonjour.
Bonjour Céline.
Bonjour.
Alors pour commencer, on a donc pris pied à bord de cet incroyable bateau de bois, le bateau-lune, qui est donc un bateau que l'on retrouve dans votre série documentaire, dont on vient d'ailleurs d'entendre un extrait, et que l'on retrouve aussi sur la couverture de votre livre paru chez Glénat, À la rencontre des peuples des mers. Et c'est vrai qu'à elle seule, cette image de bateau à la forme incurvée, qui remonte, élancée comme ça, qui remonte vers le ciel comme un croissant de lune, d'où son nom, cette image, elle emmène loin évidemment, mais surtout elle en dit long sur l'ingénierie navale, la noblesse aussi de ces peuples dits des mers. J'imagine que c'est ce qui a guidé votre démarche, cette série documentaire et aujourd'hui ce livre.
Alors, en fait, quand on parle du bateau Lune, c'est de tous les bateaux des 30 épisodes qui a été le plus particulier. Il a un côté Simbad le marin, il a un côté presque enfantin, c'est assez incroyable. C'est une lune qui se pose sur l'eau et qui a cette forme pour passer la barre. Et ce que ça appelle, c'est que chaque bateau, même si de temps en temps il y a des bateaux assez similaires, est spécifique à l'endroit où il est né, où il a été pensé et où il est utilisé.
Oui, parce qu'en fait, si esthétique soit-il, ce bateau a cette forme pour une raison très pratique, oui. C'est-à-dire qu'il faut passer une barre. Expliquez-nous où est-ce qu'on se situe d'ailleurs au Bangladesh avec ces bateaux.
Alors là, on était sur la plage de Cox's Bazar. C'est une des plus grandes plages du monde qui se situe à la fin du Bangladesh, quasiment à la frontière avec la Birmanie. Et il y a quelques villages, et dans les villages sont regroupés ces bateaux-lunes avec leurs deux pointes vers le ciel. C'est extraordinaire. Et ils sont tous groupés. La nuit, il y a ils ont plein de petits lampions, plein de petites lumières bleues, vertes, jaunes, rouges, etc. Et la particularité, c'est un peu comme en Bretagne, il y a la marée. Donc la marée part loin et revient haut, parce que la plage est en pente très très douce. Et donc ils se regroupent tous pour pouvoir porter ces bateaux qui doivent... Alors j'ai plus le poids en tête, mais ils sont très lourds.
Deux tonnes et demie, j'ai noté.
Au moins, je pense, oui. Et donc, ils doivent le mettre sur... Un peu comme on fait en école de voile, si des personnes nous entendent connaissent les bateaux d'école de voile, c'est un peu comme un énorme dériveur qu'on mettrait sur une remorque et qu'après, on pousse pour aller l'emmener dans l'eau au moins deux fois par jour pour partir à la pêche et pour revenir. Et donc, à ce moment-là, ils ont besoin de tout le groupe, de tout le peuple, de tout le monde pour un bateau. Et ensuite, ils se remettent sur un autre bateau, etc., etc. Et idem au retour des bateaux.
Alors, sachant que, Ludovic, je me tourne vers vous, cette série de rencontres, cette série documentaire, c'était votre idée, je crois, au départ.
C'est une idée, effectivement, que j'ai développée avec Stéphane Correa. Et donc, du coup, nous, on a toujours été attirés par la mer. Hein. Moi, je suis normand d'origine. Je suis monté dans un bateau presque avant de savoir nager. Et évidemment, je ne suis pas un navigateur professionnel comme Marc, mais juste un plaisancier amoureux de cet espace. Et on avait fait une dans la société de production dont je m'occupe, qui s'appelle Découpage, on avait produit une série documentaire avec Jean Galfione sur la mer en face, en fait, qui nous faisait voyager sur les côtes françaises. Et après, une fois que c'était fini, on s'est dit, continuons de creuser notre passion et essayons de trouver comment on peut parler de la mer et puis des gens qui l'aiment. Et puis on a petit à petit créé ce concept de peuple des mers et Arte a été séduit par cette proposition et c'est comme ça que c'est parti parce que oui, il y a quelque chose de formidable de par-delà la géographie, par-delà la langue, tous les marins du monde, mais ça, Marc peut en parler très bien, il y a quelque chose de une connivence, quelque chose, le livre porte ce terme de trait d'union de la navigation, c'est ça, c'est-à-dire que même si on ne parle pas la même langue, comme ça arrive souvent, et ben, les marins, ceux qui aiment la mer, ceux qui la fréquentent, ceux qui
se naviguent
dessus, se trouvent toujours de quoi parler et savent ce qu'ils vivent dessus. Oui.
Alors, sachant que dans chaque épisode de cette série documentaire, comme dans ce livre, vous prenez le parti de suivre un marin, un homme, et puis son équipage. Là, au Bangladesh, c'était Mahmoud, en l'occurrence, qui finalement va acquérir ce fameux bateau-lune après avoir beaucoup économisé avec toute la communauté. Et c'est vrai que c'est donc, comme je disais, un parti pris qu'on retrouve, ces trajectoires individuelles. Je me posais la question, c'est une des façons de raconter la mer. Il y en a plein d'autres.
En fait, quand on s'est rencontré avec Ludovic et quand il m'a parlé du projet, l'idée originale, c'est que je vais dans tous ces pays, je rencontre ces peuples, après un travail qui est fait aussi d'approche, et je n'y vais pas en tant que journaliste ou reporter, c'est pas ma fonction, j'y vais en tant que marin. Et c'est ce qui fait toute la différence, je pense, dans cette série et dans ces rencontres entre un marin donc professionnel occidental sur des bateaux très technologiques, etc. Même si j'ai connu aussi des bateaux en bois, j'ai connu un peu tout type de marine dans ma carrière. Mais là, on va vers des peuples premiers qui sont avec des bateaux, des outils qu'ils ont qui ont quasiment pas bougé depuis l'origine. Et donc cette rencontre entre, on va dire, la marine moderne et leur marine traditionnelle, voire historique, est passionnante parce qu'il y a un vrai échange. Mais on est passé par ces bateaux-là, on a eu des pirogues, alors c'était des gabarres sur certains fleuves en Charente, c'était en Normandie, je sais pas, mais Ludovic va m'aider peut-être. Il y avait des bateaux comme ça, on avait des bateaux avec des longues perches comme en Inde, on avait ça pour remonter la Seine par exemple. On a connu tout ça. Et maintenant on a changé, ça existe encore un petit peu, mais chez nous c'est un petit peu folklorique, chez eux c'est vital.
Sachant que vous, on a l'impression que dans ces rencontres, la plupart des marins ne savent pas forcément qui vous êtes, votre pédigré, on va dire, en tant que skipper. Est-ce qu'on peut justement en parler, même les auditeurs, un petit peu de votre trajectoire, ce qui vous a amené à la mer ? Parce que c'est pas anodin, à un moment même d'ailleurs dans l'avant-propos du livre, vous dites avoir littéralement passé 10 ans, nuit et jour, de votre vie sur un bateau à sillonner les océans.
C'est le calcul que j'ai fait.
Ouais, ouais. Et je me suis demandé, mais comment on en arrive à passer sa vie, en tout cas 10 ans de sa vie sur les océans ? Parce qu'on y est bien, j'imagine, déjà, peut-être.
En fait, dans la réalité, j'ai passé un demi-siècle, 50 ans. J'ai commencé la voile en 70, donc on est en 2020, donc c'est assez facile à calculer. Et j'ai commencé par l'enseignement, en même temps que je faisais de la navigation, que je courais. Et puis peu à peu, l'appétit est venu en mangeant et j'ai fait de l'équipe de France, ensuite des préparations diverses.
Pas mal de courses quand même aussi.
Et puis j'en ai fait près de 300 dans ma carrière. Et puis peu à peu, je suis allé vers mon Graal, mon absolu qui était parce que les gens qui aiment la mer, ma génération, c'est la lecture qui nous a attirés aussi, les grandes lectures, et donc le faire le tour du monde, c'était un but incroyable parce que ça contenait tout pour quelqu'un comme moi. Et donc je me suis dit, un jour je ferai le tour du monde. Je savais pas du tout que le Vendée Globe existerait quand il est apparu. Je me suis dit, mais ça c'est vraiment et la course et l'aventure que je veux vivre. Et donc j'ai fait tout tourner autour de ça pendant presque 20 ans sur ces bateaux-là. J'en ai eu 5, j'ai fait 5 tours du monde en solitaire, plus de 20 transats et des courses en pagaille, sur tous les types de bateaux, d'ailleurs des bateaux traditionnels comme des bateaux très techno, grands, tout petits.
Mais vous avez parlé à un moment de la littérature comme quelque chose qui envoie souvent les gens faire le tour du monde sur les océans, sur les mers. Et je crois savoir que dans le monde de la mer, il y a un écrivain et marin qui a compté pour vous. Il y en a plusieurs, j'imagine, dans les lectures autour du monde. Moi, j'ai pensé à Bernard Moitessier. qui est quand même une figure à part, qui a été coureur au large, poète, aussi nomade des mers, on a dit, donc né en Indochine et qui a notamment sillonné les mers du Sud. Il est l'auteur de Vagabond des mers du Sud et surtout de La Longue Route, un récit de 10 mois en mer à bord de son bateau mythique Joshua. Et après avoir abandonné en 69.
Renoncé,
puisqu'il était dessus. À la surprise générale, c'est une précision importante, une course autour du monde en solitaire à la voile. On l'écoute tout de suite en 1986 au micro d'Ariel Kassim sur l'antenne de RFI.
La mer, je l'ai aimée parce que je passais mes vacances au bord de la mer. Mais la philosophie asiatique, c'était surtout une philosophie de très très grande simplicité en mer. Les marins d'Indochine, les pêcheurs, les caboteurs, ils n'avaient pas de moteur. Leurs voiles, c'était des feuilles de latanier tressées. Leur auban, c'était du gros fil de fer ou même des cordages. Les gens qui étaient calfatés avec une écorce de caïtram, enfin c'est une écorce. Ouais, ça n'avait rien à voir avec les toupes. Les fers à calfa, ils étaient en bois. Les bateaux étaient chevillés avec des bois, il n'y avait pas un seul clou là-dedans. Tout était simple. Et il est certain que ça m'a beaucoup servi pour naviguer, cette simplicité. Je m'aperçois par exemple pour Joshua n'avait pas de winch pendant 3 ou 4 ans. Je faisais sans winch, je faisais avec des palans, je faisais autrement. J'ai passé le Cap Horn sans winch la première fois. Ça se passait très bien, ça aurait été plus facile avec des winch, mais ça n'empêchait pas qu'on peut naviguer d'une façon extrêmement simple.
La simplicité, mais aussi la liberté, c'est la grande leçon, Marc Tiercelin, que Bernard Moitessier a donnée à tous les marins, vous y compris.
Nous, il y a eu deux écoles dans le monde de la mer, de la mer française, on va dire, de la plaisance française. Il y a l'école Moitessier, qui était plutôt une école d'ailleurs très typée 68, parce que quand ils renoncent, on est en plein dans cette époque-là, 69, 68. Puis l'autre école, qui est l'école Tabarly. Moi, je suis plus issu de l'école Tabarly quand même, plus la compétition. Mais ça m'a jamais empêché d'avoir un pied dans l'aventure. Non, mais j'ai toujours été... J'ai
entre
deux jambes.
Les deux ?
Ouais. Pas entre les deux, non. J'ai deux jambes que j'assume. L'une, je suis aventurier et j'aime ça. Et c'est pour ça aussi que j'ai aimé les premiers Vendée Globe, parce qu'il y avait un côté, on partait totalement à l'inconnu. Et j'aime bien Moitessier. Tabarly, il écrit pas très bien, mais c'est un sacré bonhomme. Mais c'est eux qui nous ont donné cette envie.
Et dans ce que dit quand même, dans ce que dit Bernard Moitessier, c'est aussi cette idée des moyens rudimentaires, c'est-à-dire qu'on peut, et vous l'avez dit, naviguer bien avec peu. Et c'est ce qu'on comprend, Ludovic Fossard, aussi dans cette série. C'est-à-dire qu'on voit dans ces épisodes des gens, des hommes, partir à la mer avec des petits bateaux. Des fois, c'est même des petites corbeilles. Il y a vraiment des tout petits bateaux où on se demande comment on fait pour partir en mer avec.
C'est un peu le paradoxe de l'époque. Hein, quand aujourd'hui, vous naviguez, vous avez besoin de GPS hyper sophistiqué, vous avez une réglementation qui est très stricte. En tout cas, moi, je parle pour les plaisanciers. Hein, donc, vous avez besoin de moteurs performant pour rentrer au port, mais en fait la navigation c'est aussi d'une grande simplicité. Il se trouve que peut-être les gens ne le savent pas, mais Joshua, le bateau, il est encore en vie, hein, il existe, il est à La Rochelle, il fait partie du patrimoine historique maritime français. Et moi j'ai eu la chance de naviguer avec, en fait, pas très longtemps, en fait, je suis parti une journée sur ce bateau. Alors ce qui est vraiment incroyable, c'est que tout est fait de briques et de broc. Vous voyez, son mât, c'est un poteau télégraphique. Il est tenu par des étés qui sont des lignes de chemin de fer. Enfin, la roue, c'est quelque chose de très très rudimentaire, d'une très très grande simplicité. Il est assez lourd aussi, hein, comme bateau, mais on a l'impression que c'est un tout terrain des mers, qui peut rien lui arriver, et surtout qu'on peut tout réparer. Moi, ce qui me choque, Moi, j'ai un vieux bateau aussi, hein. J'ai un bateau des années 60, donc ça c'est aussi un bateau un peu rustique, mais les bateaux d'aujourd'hui, d'abord, ils sont beaucoup plus larges, donc beaucoup plus confortables, hein, que les bateaux d'autrefois, mais pas plus rapides, pas plus marins, en fait, au contraire, même, ils bougent plus.
Ils sont moins maniables,
c'est plus fait pour le confort que pour la navigation, et c'est vrai que... Peut-être on a, après c'est bien hein, d'avoir du confort, d'avoir de la sécurité sur la mer, mais peut-être qu'on a un petit peu perdu finalement du sens de la navigation.
Très sensible aussi.
Oui, parce que déjà, une chose toute bête, c'est qu'on est plus haut sur la mer, sur ces bateaux nouveaux. Donc déjà, le franc-bord est bien plus élevé, donc votre rapport à l'élément, c'est pas le même, hein, on s'en prend... moins dans la figure, comme on pourrait dire, quand on navigue sur les bateaux d'aujourd'hui plutôt que les bateaux des années 60 et plus encore avant en tout cas.
Et alors on sent, c'est le principe de cette série, on vous voit, Marc, participer quand même à toutes les mises à l'eau, hein, donc vous en faites, vous mouillez la chemise littéralement, et vous naviguez avec ces hommes et ces femmes sur tous les rivages du monde, vous naviguez avec eux et comme eux. Donc vous participez pleinement à ça. Et c'est peut-être qu'à ce moment-là, la rencontre peut pleinement avoir lieu. C'est sur la mer.
Oui, il y a une soudure qui se fait. La mer est un langage universel. Quand il y a une tempête, il y a une tempête. On peut dire ce qu'on veut, mais la tempête, elle est là. Le calme plat, pareil. Donc le bateau, il avance pas, il coule pas. Il s'échoue pas. C'est un langage universel, quelle que soit la langue qu'on pratique, quel que soit le métier qu'on a, quelle que soit son histoire, personnelle ou collective. Et donc, ce qui est beau dans le bateau, c'est unité de lieu, unité de temps. Donc tout ce qu'on vit, on le vit en même temps. Alors on peut s'en extraire, dormir, rêver, se dire c'est pas pour moi, mais que ça soit sur les bateaux modernes et avec les équipages enfin modernes ou occidentaux, on va dire, et modernes aussi, que ça soit sur des pirogues, c'est pareil, c'est exactement pareil, c'est exactement ce qui se passe. En plus il y a un objectif, alors c'est où, pour pêcher ou pour faire des courses ou pour transporter des marchandises ou que sais-je moi, ou se transporter, et à partir du moment où tout le monde connaît l'objectif, connaît l'environnement et sait à peu près avec qui il est à bord, il va reporter sa demande sur chaque personne. Chacun va avoir un rôle à bord. Ça, c'est important aussi.
C'est pour ça que vous insistez comme ça dans l'ouvrage sur le lien, sur ce qui fait lien. Ça revient très souvent.
Mmh. Ouais. Parce que quand vous êtes, et c'est pareil avec la montagne, quand vous êtes confronté à l'élément naturel, vous ne pouvez compter que sur vous-même ou sur les forces qui vous entourent humaines. C'est-à-dire que les éléments, la montagne, la tempête de la montagne, la campagne aussi, les déserts et la mer en particulier, c'est ça que je connais le mieux, quand elle a décidé de vous faire mal, elle vous fait mal. Même si vous l'aimez. Et elle ne s'arrêtera pas parce que vous lui direz bah, « Attends, moi je suis fatigué, là, il faut que je dorme un peu pour reprendre des forces. » Non, il va falloir... Donc l'ensemble des humains qui essayent de la dompter ou qui essayent d'avancer vers un but, quel qu'il soit, elle va devoir trouver seule de l'intelligence, collectivement de l'intelligence. Et la solidarité des gens de mer, sur un même bateau ou entre bateaux, n'est pas un vain mot. C'est quelque chose qui aussi fait écho dans notre société. Moi, souvent, on m'a demandé d'intervenir à ce sujet-là. Parce que c'est quelque chose qui est inhérent à la vie de marin. On se doit la solidarité qu'on commande un pétrolier ou qu'on ait une pirogue. Et ça, c'est pas si fréquent que ça sur cette terre, sans vouloir jouer là. Voilà, c'est assez important. Et donc, quand on est à bord du même bateau, on sait qu'on a une communauté de destin. Parce que si le bateau va au mauvais endroit, ou qu'il est mal dirigé, par exemple, ou mal utilisé, en gros, si on schématise, on va tous y passer.
Et pourtant, c'est pareil sur Terre.
Oui, tout à fait. Dans un ascenseur, par exemple. On peut tourner.
Mais c'est effectivement une forme de destinée commune, mais c'est aussi, et ça vous l'évoquiez tout à l'heure, par ce voyage, on se rend compte qu'il y a 1000 façons de naviguer. C'est-à-dire que notre façon de naviguer à nous, c'est une façon...
Il y a 1000 embarcations aussi, ce qu'on a vu, parce qu'on a parlé des bateaux lune, mais il y a des pirogues à balancier, il y a plein de choses.
Exactement, et puis les gens n'ont pas, évidemment, dans la majorité des pays du monde, ils n'ont pas accès au GPS et aux cartes marines comme nous on les a. Alors c'est magique, enfin, moi je ne vais pas parler à la place de Marc, un marin réputé, mais c'est magique de les voir naviguer en regardant les étoiles, en se repérant au relief des côtes, en sachant lire la couleur de l'eau. Et puis voilà, on est parfois au milieu de l'océan, et puis on se dit bon, bah ça y est, on est perdu. Maintenant, faisons notre prière. Et voilà, et non, le capitaine du bateau sait toujours où aller, comment se diriger, où retrouver l'endroit où il va retrouver ses proches et sa famille.
Après, j'apporterai juste un petit contrepoint. On se connaît bien avec Ludovic et c'est vraiment génial tout ce qu'on a fait. Les marins professionnels dont je fais partie et notre génération, on a aussi appris, nous, avec les bases. C'était, on a appris sans GPS. Moi, j'ai fait du sextant. J'ai même, donc, on apprend à se diriger aux étoiles, etc. Et donc, ça, c'est un langage qui nous parle. Et c'est peut-être comme ça que, par exemple, avec les Vez, la liaison se faisait mieux. Parce qu'ils partaient sans aucun instrument, sans rien du tout, sans montre, surtout. Ces peuples-là n'ont pas accès à ces outils, ou rarement accès.
accès à ces outils. Parce que sinon, ils aimeraient peut-être aussi, de temps en temps, pour leur sécurité, les utiliser. Quoi.
Si on évoque nos souvenirs communs, par exemple, quand on était au Brésil, dans le nord-est brésilien, avec les Jangadeiros, qui ont des embarcations complètement originales, puisque c'est des sortes de planches à voile aménagées, Marc, dans mon souvenir, enfin, en tout cas quand je l'ai vu là-bas, il était comme un enfant sur ces embarcations très 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 particulières où finalement notre façon de naviguer, il fallait un peu tout réapprendre. Hein.
Sachant qu'ils vont très loin des côtes, jusqu'à 70 km, je crois.
Ça va très loin. Hein. Bah, c'est assez impressionnant parce que c'est pas forcément d'aller loin des côtes qui est impressionnant, c'est dans les conditions dans lesquelles ils y vont. C'est-à-dire qu'on est sur une planche, donc une jangada, ça fait à peu près 5 mètres de long, dans le meilleur des cas, entre 3 et 5 mètres, de mémoire. 1,50 de large, maximum 2, et ils sont à 3-4 là-dessus. Il n'y a pas de cabine, il y a juste un coffre dans lequel ils s'engouffrent dans une planche à voile, donc 50 cm d'épaisseur, et ils sont debout. Ils vont être debout pas 4-5 heures, ils vont être debout une journée, une nuit, et un retour éventuellement. Et ils se tiennent sur une espèce de trépied, il y a un petit mât avec une voile, et ils vont pêcher dans des creux entre 3 et 6 mètres, à peu près, en moyenne, tous les jours, puisque la Lysée souffle de façon permanente, même la nuit. Ça fait partie des routes les plus fréquentées du monde. Donc, ils se retrouvent avec toute la corne du Brésil, enfin, la corne de l'Amérique du Sud, d'ailleurs, tout simplement, avec des cargos, des ferries, des pêcheurs industriels, des plaisanciers, mais ça, c'est minime. Et eux sont rien. C'est vraiment un fétu de paille sur l'océan. Là, c'est vraiment, vraiment ça, quoi.
Alors, vous l'avez dit, Ludovic Fossard, ces peuples souvent voyagent pour guide le ciel et les étoiles, ce qui est le cas, vous l'avez dit, des Vez, ces nobles pêcheurs et marins malgaches. Et ça fait depuis 2000 ans qu'ils voyagent et naviguent ainsi. Avec ce chant des marins Vez, des femmes d'ailleurs plus exactement, qui appellent à la bénédiction d'un bateau avant sa mise à l'eau, on va donc prendre la direction Madagascar à la rencontre de ces grands voyageurs. On peut le dire, Marc Tircelin, parce que vous avez voyagé avec eux et comme eux. Racontez-nous.
Oui, c'était le deuxième tournage, donc pour moi c'était quand même tout nouveau tout ça. Et on est parti pour une migration. Alors eux font des migrations incroyables, ils font des migrations qui sont de l'ordre de 8 mois sur 12, où ils partent, donc les hommes partent, les femmes partent sur le boutre, un boutre
ils
avec
suivent, en fait.
Les suivent en parallèle avec les enfants, avec des sacs de riz et des sacs de sel. Et ils vont pêcher, et au fur et à mesure qu'ils pêchent, ils abordent des îles qu'ils connaissent. Et là, ils font sécher le poisson, après ils le vendent aux marchands qui sont de passage et tout ça.
Donc ils nomadisent en quelque sorte, c'est ce qu'ils disent, là où se trouve le poisson, se trouve notre maison. C'est un adage Vez.
J'ai rien à rajouter là-dessus, c'est tout à fait ça. Après, ce qui est surprenant, c'est effectivement, alors il y a la partie purement navigation qui est assez incroyable, parce qu'au début, on voit la côte. On voit des arbres, on voit des collines un petit peu, puis après ça s'estompe, et là c'était le début du voyage. Puis ensuite on est vraiment en mer. Alors il faisait relativement beau, donc ça va, mais on se dit, mais la nuit, quand il fait mauvais, quand tout ça, puis... Et après ils sont à l'estime, ils naviguent avec, ils font une évaluation comme ça, de combien de temps ils y ont passé, à quelle vitesse, etc. Donc ça, c'est vraiment les navigations à l'ancienne.
Sachant que vous étiez sur un laka, donc ces pirogues à balancier avec une voile carrée, et vous avez voyagé quoi, 2-3 jours avec eux.
On a fait des morceaux et on a
été
une grosse semaine avec eux, mais on a fait des morceaux. Ouais. Mais après, c'est étonnant parce que au niveau de la technique. Par exemple, si le vent est portant, donc avec, ou si le vent est contre, eh bien avec leur grande voile carrée, qui est une sorte de drap, avec ce qu'ils peuvent, ils vont lui donner plein de formes différentes, en faisant des nœuds,
avec le tissu, en faisant des nœuds, un peu comme on fait des pinces pour les pantalons, quand, suivant ce que l'on veut obtenir comme forme, c'est pareil. Donc quand ils veulent remonter au vent, ils vont faire un nœud plus serré à l'avant, donc ils vont pincer plus le tissu, comme ça ils pourront remonter plus vers les îles, par exemple. Et quand ils vont redescendre, ils vont ouvrir le nœud, les deux nœuds ou trois nœuds, ça dépend ce qu'on a fait, et puis ça va devenir une voile plus ballon, et on va redescendre.
Sachant que durant cette migration, il y a aussi ce très beau moment dans un des épisodes où Mam, donc, puisque c'est le personnage que vous suivez dans cette migration, où Mam, donc ce pêcheur vez, malgache, s'adresse aux ancêtres qui peuplent les mers. Et comme ça, il y a un dialogue qui se fait avec la mer, puisque selon eux, selon les Vez, et d'ailleurs selon beaucoup de peuples premiers, comme vous dites, il y a cette idée que la mer est habitée par les esprits, par les ancêtres.
Comme on ne peut pas trop interagir sur les... On ne peut pas réduire les vagues, on ne peut pas calmer le vent, il y a des formes de croyances qui s'installent. Alors, elles sont plus ou moins puissantes selon les endroits. Il y a des superstitions. On a tous, enfin, moi, j'ai des superstitions.
C'est une relation aussi à l'élément, ce qu'on appelle l'animisme aussi, qui fait qu'on a, voilà, on a créé une culture à partir d'un élément avec lequel on vit pleinement.
Puis ils ont besoin. Et quand on prend le peuple Vez, on a des gens très, très jeunes. On a une population très, très jeune. Et les anciens restent à terre. Et donc, ils font des passages, quand ils partent pour leur migration qui va durer quasiment deux tiers de l'année, ils vont faire un travail avec les anciens parce que ça les rassure. Parce que finalement, les anciens ouvrent, c'est comme ça que je l'ai vu, moi, ils ouvrent des portes pour les plus jeunes. Et ensuite, les mâmes deviendront les anciens, etc., etc., si ça se perpétue. Et donc, avec les anciens, ça m'intéresserait d'ailleurs de voir dans 20, 30 ans, ça sera un peu tard, mais comment mâme va faire lui à son tour. Ils ont des codes que doivent respecter ceux qui partent en migration. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des incantations, qu'il y a des cérémonies éventuellement, qu'il y a pas mal de choses.
Sachant que sur les Vez, on parle d'un des derniers peuples nomades des mers du monde. Il y en a d'autres que vous êtes d'ailleurs allés rencontrer. Il y a les Bajo ou Bajao d'Indonésie. Il y a les Moken de Thaïlande. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a des peuples qui parfois vivent littéralement sur l'eau.
Oui, et ils sont de plus en plus rares, puisque évidemment que les gouvernements successifs ont tout fait pour sédentariser ces populations nomades. Un gouvernement, ça n'aime pas tellement voir des populations
qui n'ont pas naviguer
librement, sans adresse, à qui envoyer des courriers et sans vraiment...
Et qui ne payent pas d'impôts.
Qui ne payent pas d'impôts éventuellement. Et donc, du coup, ces peuples nomades des mers sont évidemment de plus en plus rares, et c'est ça qui est intéressant dans cette série aussi, c'est cet aspect patrimonial. C'est-à-dire que, quelque part, c'est une série et un livre qui racontent les derniers peuples des mers, parce que c'est des gens qui sont sur le fil et qui pourraient disparaître assez vite. Hein. Il y a, par exemple, on a suivi les Moken en Thaïlande. Bon, moi, je pense que c'est un des derniers bateaux qui navigue encore.
C'est des maisons bateaux flottantes.
Des maisons bateaux flottantes, voilà. Et c'est maintenant, ils sont pour la plupart sédentarisés. Les Bajo en Indonésie, maintenant la sédentarisation est faite. Hein. Ils vivent sur la mer, puisqu'ils vivent sur des maisons sur pilotis, un peu à l'écart des terres. Ils se sentent pas du tout terrien pour le coup, mais ça n'empêche qu'ils vivent quand même dans des villages identifiés, qui portent des noms, et ça c'est un changement quand même.
Alors vivre sur l'eau, tiens, c'est aussi ce que font les Tofins du Bénin, sachant qu'ici il s'agit d'un lac situé tout proche de la mer et de Cotonou, la capitale économique du pays. Extrait de C'est pas du vent, où Anne Cécile Bras, notre confrère de RFI, était parti avec Alexis Chéniaud, chercheur à l'IRD, sur ce fameux lac Nokwe.
Le lac Nokwe, donc c'est un complexe lagunaire, ce n'est pas seulement un lac. Donc il est situé au nord de Cotonou, sa superficie est de 150 km². Ce lac est alimenté par différents bassins versants, donc par des rivières d'eau douce, et il est connecté avec la mer via le chenal de Cotonou. Voilà, un chenal qui fait 4 km de long. Donc il y a des échanges permanents d'eau douce, d'eau salée dans ce lac Nokwe.
Alors on va donc aller voir ce qu'on appelle les akadja. Il y en a partout sur le lac, c'est assez impressionnant. De quoi s'agit-il?
Donc ce sont des, pour que les auditeurs le visualisent, ce sont des parcs artificiels où on a introduit énormément de branchages venant du continent pour reproduire un peu les zones de mangroves. mangroves qui étaient présentes sur les pourtours du lac le siècle dernier, qui ont été déforestées, arrachées. Donc il n'y a plus de zones de mangroves. Et les zones de mangroves sont des zones de frayères, de nurseries importantes pour les ressources halieutiques. Et c'est cette technique traditionnelle de pêche donc, consiste à mettre des branchages pour refaire des zones de frayères artificielles pour les poissons. Donc les poissons viennent s'y réfugier, se reproduire. Et ensuite, les pêcheurs viennent, à l'aide de filets, pêcher tout autour de ces parcs. Voilà, donc c'est leur technique de pêche traditionnelle.
Marc Tiercelin, Ludovic Fossard, ces acadjas ont façonné le territoire et la lagune, mais aussi, on l'a entendu, la vie des Taufins, ce peuple de pêcheurs béninois. Dans l'un des endroits, vous écrivez dans votre livre, à la rencontre des peuples des mers, dans l'un des endroits les plus incroyables du continent africain. Pourquoi si incroyable ?
Bah en fait, on est vraiment en bordure de mer. Il y a la lèvre de mer qui est là, au Bénin. Et puis, on rentre dans une mer intérieure, dans une espèce de grande lagune, mais immense. Hein, on voit tout juste l'autre rive. Et sur lequel, donc, la ville de Ganvier, qui est une sorte de Venise donc, africaine.
Oui, qui est située tout au nord du lac.
Tout au fond, ouais. Et qui, je crois, c'est 50 000 âmes. Ce qui est beaucoup sur l'eau. Et moi, ce que j'ai bien aimé, enfin, il y a plein de des choses qui étaient un peu impressionnantes, puis des choses que j'ai bien aimées, parce que j'aime bien les petites choses comme ça, où quand j'avais posé la question, je ne sais plus comment, dans quel sens je l'avais posé, mais j'avais dit, mais vous connaissez la terre ferme ? Il y avait les mômes qui répondaient, parce que vous prenez un peu le français de ça. Ils disaient, non, nous on vit toujours sur des bateaux, on va à l'école en bateau, on va faire les courses en bateau, on va chez le médecin en bateau, on se balade et on joue en bateau, ils s'amusent à faire comme les grands, à pêcher et tout ça. Et en fait, moi, ça me parle parce que comme j'adore le bateau et la mer, et je me disais, ben, c'est des mômes, c'est des véritables, si ce n'est des poissons, en tout cas des équilibristes tout le temps. Ils sont toujours en proprioception toute leur vie. Ils descendent de leur maison, qui sont sur pilotis, et ils sont sur des bateaux pour se déplacer. Et les bateaux sont un peu leur semelle, quoi. Et il y avait l'acadja, alors ça, c'était quelque chose d'assez incroyable, parce que c'est des trucs d'acacia, ça fait, c'est raide comme tout, c'est plein de piquants et tout. Donc on a dû récupérer tout ça sur un bateau, et au bout d'un moment, on a créé une forêt dans un bateau. Et après, le bateau, on le bouge. Donc, on bouge la forêt vers le lieu où on va planter, pendant toute une journée à peu près, toutes ces branches d'acacia. On va les planter dans la vase du fond de la lagune pour créer un parc. Ça crée une sorte de forêt sur laquelle vont s'agréger les moules, enfin la vie semi-marine, parce que c'est même plus de l'eau de mer, c'est de l'eau saumâtre.
Sachant que ce lac Nokwe, c'est un pilier économique du Bénin, ça représente 50% des ressources halieutiques de Cotonou. Mais aujourd'hui, il est menacé, c'est ce que vous raconte d'ailleurs Abel, le pêcheur taufin que vous suivez.
Parce que quand on voit les photos d'avant, et quand nous on avance avec les pirogues, on voit bien qu'on bute sur des plantes. Alors c'est très joli comme ça dans les images, on fait des très belles photos avec des sortes de gros nénuphars verts. Mais ça, c'est l'expression d'un manque d'oxygène dans l'eau.
Les fameuses jacinthes d'eau,
voilà,
c'est ça.
Et une pollution grandissante. Et en fait, ils expliquent très bien qu'avant ça, c'était des petites zones et ça. Maintenant, ça prend toute la ville. Et qu'en fait, les bateaux ne peuvent plus avancer déjà. Et il y avait ça aussi au Kerala, chez les Indiens. Moi, je me souviens, un jour, j'ai tiré sur la berge, la pirogue, parce qu'elle n'avançait pas dans l'herbe. Parce que les herbes poussent. Alors, on retrouve ces problèmes-là. Hein. C'est comme dans le sud, les herbiers de Posidonie, tout ça. Enfin, c'est partout où il y a des pollutions importantes, où on enlève l'oxygène, eh bien, les plantes font que les pêcheurs ne peuvent plus pêcher et surtout ne peuvent plus avancer.
Parce qu'en Inde, en Afrique ou ailleurs, la pollution, la surpêche aussi et la raréfaction des ressources halieutiques menacent la vie, la survie même de ces peuples marins. On en reparle juste après, tout de suite. On écoute sur RFI la grande Toto, la Mampocina, une ambassadrice de la musique colombienne, louer les pêcheurs avec El Pescador.
Va subiendo la corriente, con chinchorro y Tiene por rotulas, solo su atarraya.
C'est proche sur RFI.
Écoutez, vous voyagez.
Nos collègues pêcheurs ne se soucient pas de l'avenir de la pêche au Sénégal. Ils ne voient que leur intérêt immédiat et non le futur. Tu vois là, sur le quai de pêche où nous sommes, dans un passé récent, les camions étaient nombreux et le poisson aussi. Et voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Regarde actuellement, c'est le calme plat. On a d'énormes problèmes. Et c'est ce qui pousse les jeunes Kayarois à s'embarquer dans les pirogues pour l'Espagne, l'Italie ou une autre destination. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut. Parce que l'État qui doit nous accompagner a failli à son rôle. Et si on va jusqu'à essayer d'installer une usine de farine de poisson, c'est une catastrophe parce qu'on encourage les mauvais pêcheurs. Et c'est une erreur. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kayar combat depuis plus de 30 ans pour sauvegarder ses ressources, pour préparer la part de demain. En 2005, les Kayarois se sont battus contre les Saint-Louisiens. On ne se battait pas contre leur origine, mais on savait ce qu'ils faisaient. Nous voulions qu'à Kayar, on interdise la pêche au monofilament.
Si tu dis 2005, l'histoire de Kayar, je rappelle, nous avons interdit le monofilament à Kayar. N'importe quelle pêche, tu viens, mais pas monofilament. On ne le pratique pas, nous, jamais. Mais toujours, le Kayar va interdire ça.
Parce que le monofilament, c'est un filet en nylon qui ne se dégrade pas et qui continue à pêcher.
C'est dangereux, ça. Imagine ça, c'est la vérité. Un filet qui casse en mer. 10 ans, il pêche. 10 ans, il pêche. Imaginez-vous. Si nous ne protégeons pas la mer de Kayar, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Sénégal? C'est ça la vérité.
Ludovic Fossard, Marc Tircelin, ces pêcheurs sénégalais de Kayar que Sibyl Dorgeval, notre reporter, avait rencontrés, donc pour nous, en 2019. Ils auraient pu avoir aussi leur place dans votre série et votre livre « À la rencontre des peuples des mers », sachant que successivement, on a entendu Badou Khan, un activiste kayarois, et Eladj Ndiaye Kos, un ancien pêcheur natif de ce village qui est situé sur la grande côte, non loin de Dakar, où tout le monde vit de la mer. Et c'est vous aussi ce que vous avez vu, c'est-à-dire des communautés entières qui vivent de la mer, avec un contexte de surpêche, et parfois avec aussi l'idée que ces peuples pouvaient être les gardiens de la ressource, les prédateurs. Il y a un paradoxe.
Ils ne sont pas prédateurs.
Souvent, c'est une pêche de subsistance, peut-être, dans les volumes.
C'est pour vivre, oui. Bah, eux pêchent ce dont ils ont besoin. Et comme ce sont des peuples, on vient d'en parler tout à l'heure par rapport au fait qu'ils sont minoritaires par rapport aux peuples sédentaires, ils pêchent juste ce dont ils ont besoin. Et un peu plus pour la famille élargie, pour le clan, pour la tribu, pour le peuple. Et aussi pour faire un peu commerce, pour acheter les produits de première nécessité, comme le riz, du gasoil, du savon, enfin des choses dont ils ont besoin. Et souvent, c'est très peu. Donc, ils pêchent peu. Après, ils n'ont pas la grande problématique qu'ils vont, et on ne pourra pas la régler là, mais ils ne peuvent pas trop intervenir. Enfin, ils n'ont pas leur voix au chapitre.
C'est un peu David contre Goliath, parce que c'est vrai qu'il y a des peuples souvent isolés, pas fédérés, alors qu'il pourrait y avoir des petits pêcheurs qui se rassemblent. Ça s'est vu un peu en France, ça pourrait se voir ailleurs. Qu'ils sont dans un contexte de surpêche. Ouais. On a des exemples comme ça, vous citez dans le livre, où eux pêchent selon leur mode de pêche traditionnel, parfois dans des réserves un peu protégées de biosphère et autres. Et puis au loin, il y a les gros chalutiers qui raclent la surpêche et le monde moderne les rattrape.
Mais on a l'exemple aussi près de nous. Moi, j'habite à Marseille, il y a le parc national des Calanques. Et donc maintenant, ils ont interdit un certain nombre de pêches. Ça n'empêche pas que tous les jours, ils chopent des braconniers. Donc là-bas, où il n'y a pas les systèmes qu'on a, nous, ici, de surveillance, de contrôle, de retour, etc., puis de moyens puissants pour intervenir. Avec Ludovic, on était au Bisagos, dans l'archipel des Bisagos,
ça c'est en Guinée-Bissau.
en Guinée-Bissau, oui. Il y a donc les îles avec des tortues, il y a beaucoup de poissons, il y a une faune, une flore, une faune incroyable et tout ça. Et la seule chose qui protège cet archipel, c'est les bancs de sable, qui fait que les bateaux chinois, les chalutiers usines, là où ils sont en haut, moi je les ai croisés plein de fois dans mes navigations au large de la Mauritanie, sur le banc d'Arguin, bah, ils peuvent difficilement accéder au Bijagos. Mais ils sont juste autour. Et la scène qui m'est restée en mémoire, c'était au deuxième tournage, c'était avec les Vez. Le dernier jour, on est parti pour une grande pêche. Et la veille au soir, je me souviens, on était avec Nikos, le réalisateur, et on voit passer au large deux gros chalutiers. Français en plus, d'une grande enseigne de grande distribution. Et je dis, tiens, eux, ils pêchent à la Seine, donc ensemble, de gros chalutiers qui ont des filets qui vont chercher très bas sur le fond. Et le lendemain, donc, on est parti vers 6h du matin avec Mam et son équipage pour pêcher, pour faire une grande pêche. On a ramené 10 poissons. Ça, c'est la réalité.
Mais sachant que, vous l'avez dit, Ludovic Fossard, ces peuples sont en voie de disparition de par leur mode de vie, mais aussi parce que la ressource s'éteint et eux vivent de la mer.
Oui, vous disiez parfois le poisson manque, mais c'est pas parfois le poisson manque,
c'est tout le temps
le poisson manque. C'est-à-dire que sur 30 destinations, je sais pas, peut-être je peux vous citer 3 destinations où il y a encore du poisson, parce que aussi en Guinée-Bissau, dans l'archipel des Bijago, parce que
la
nature les protège, parce que aussi il y a une protection administrative. Après, il y a peut-être au Brésil, chez les Caïçaras, parce que l'État, l'administration est bien organisée pour protéger les ressources et c'est équilibré et il n'y a pas de prédation. Mais la norme, c'est la disparition. Et l'impact, il est gigantesque. Enfin, on entendait dans votre reportage les gens qui disaient que ils n'avaient plus qu'à fuir, enfin, à migrer, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Et ça, on ne mesure pas toujours, nous, vu d'ici, vu de Paris, l'impact, c'est très considérable et complètement terrible qu'ont ces déséquilibres qui sont générés par la surpêche industrielle non réglementée, corrompue, qui existe partout sur les mers du globe. Oui, c'est vraiment quelque chose de terrible. Et ça, Nicolas Hulot, c'était marrant parce que j'y pensais souvent. En fait, il dit toujours, moi, j'ai jamais été écologiste. Je suis devenu, en fait. Pourquoi il est devenu? Parce que lui aussi, il a fait le tour du monde. Il a vu plein d'endroits, il a voyagé. Et puis, il s'est dit, c'est fou, quoi. Comme le monde est abîmé, comme dit Sylvain Tesson, quoi. On vit dans un monde abîmé, oui, voilà.
Et en même temps, c'est pas du tout ce que vous montrez dans cette série, parce que c'est vrai que autant dans le livre que dans les épisodes de cette série documentaire, À la rencontre des peuples premiers, toutes ces problématiques environnementales, cette question de la survie de ces peuples, vous les abordez pas frontalement, vous laissez les choses s'installer, la rencontre se faire, essayer de découvrir déjà le littoral ou les côtes, leur mode de vie, mais vous êtes plutôt dans un reflet... on va dire bienveillant, évidemment, ça c'est sûr, surtout que vous accueille. Mais il y a quand même cette idée de montrer quelque chose d'encore un peu positif. C'est vrai que vous parlez pas de ces problématiques directement.
Et c'est un choix.
Mais c'est pas gênant, justement, dans un contexte de surpêche.
Après, je me permets, juste dans les 30 peuples, il n'y en a pas un seul, qui s'est plaint. Ça, c'est la grande différence. Enfin, moi, vu de chez moi, ils ne se plaignent pas.
On parlait de noblesse au tout début de l'émission.
Ils ne sont pas forcément contents de la situation, mais ils ne se plaignent pas. C'est la grande différence avec les Occidentaux, quand même.
Mais est-ce qu'ils luttent? Est-ce qu'ils se rassemblent?
Il y a des peuples qui luttent. Les gens de Gadeiros, moi, ça m'avait amusé, parce qu'on arrive au Brésil, dans le nord-est du Brésil. Ils ont des maisons blanches, les pêcheurs, et c'est marqué en gros, en noir, à la peinture noire, un peu comme à l'époque du FLB en Bretagne. Dehors, les latifundios, enfin, les gens qui les chassent, de leur terre, etc. Donc ils sont bagarreurs, oui, ils peuvent être bagarreurs, mais souvent ils sont quand même, en général, ils sont plutôt fatalistes. Et c'est pas seulement en Afrique, ils sont aussi en Amérique du Sud, les Indiens, beaucoup, ils sont fatalistes, mais ils se plaignent pas. Et c'est un élément que je voulais apporter à la conversation, et ça m'a frappé. Et le parti pris dans la série, c'est une forme de témoignage. Mais après, c'est vrai que c'est difficile d'apporter des solutions, parce que le problème, il est beaucoup plus large que les peuples premiers. C'est l'ensemble de la population sur Terre, et le fait qu'on mange beaucoup de poissons, qu'il y a du poisson dans tous les sens, et qu'on a fait comme avec la viande, on a créé des fermes, etc., etc., et qu'il y a des populations pas si éloignées que nous, hein, en Europe, dont c'est 80%, voire à 90%, c'est un sujet que j'aime bien aussi à titre personnel, mangent du poisson. Les Espagnols, les Portugais, par exemple, les Grecs mangent du poisson à plus de 80%. Donc, ils ont été obligés d'aller voir ailleurs.
de pousser ailleurs. Et ensuite, les Japonais, par exemple, c'est dans leur culture. Alors, ils le font de façon barbare et sauvage, et de temps en temps dérégulée. Mais donc, les peuples que nous avons croisés, eux subissent, eux sont minoritaires.
Ils sont en première loge, d'ailleurs.
Mais ils tiennent encore, hein, combien de temps, je ne sais pas, parce que peut-être qu'ils vont tenir, on va manger toujours hein, de l'optimisme. Ils tiennent, parce que, justement, c'est les tout-petits, mais comme ils n'ont besoin de pas beaucoup, bah, ils tiennent. Alors que ceux qui ont besoin de beaucoup, je ne sais pas combien de temps comment ça va se faire dans le futur.
Et en même temps, ils sont en minorité et ils nous apprennent beaucoup aussi.
Ouais, c'est des gens qui vivent avec peu. Et ça, c'est quelque chose, on cherche beaucoup ailleurs à trouver des solutions pour nous. Et ben ça, c'est quelque chose que l'on pourrait méditer, vivre avec peu.
Pour vous, c'est ça la leçon?
C'est pas de la décroissance, hein, je précise. Hein. Attention, vivre avec peu, c'est-à-dire, il y a certaines choses dont nous n'avons pas forcément besoin. On mange trop, par exemple.
Et alors vous, Ludovic Fossard, vous diriez que c'est ça la leçon de ces peuples des mers? Qu'est-ce qu'ils vous ont appris d'ailleurs à vous aussi?
Oh, la simplicité, oui, bien sûr. Enfin, évidemment que ça nous renvoie toujours à un rapport à l'essentiel, un rapport à la nature, à des choses qu'on a tendance à perdre dans nos sociétés hyper industrialisées. Et, évidemment que...
Mais sans fascination, parce que c'est compliqué aussi ce regard des fois de l'étranger sur ceux qui vivent avec peu, qui en même temps aimeraient peut-être vivre avec plus, avoir plus d'équipement. Il y a aussi ça dit beaucoup de ce regard qu'on a sur l'autre.
Forcément, oui, il y a forcément une attirance, mais peut-être une attirance réciproque, et la nôtre, c'est une attirance de riche, c'est-à-dire qu'on finalement on a tout, et puis on se dit, bah, on pourrait renoncer. Mais en tout cas, non, je pense qu'à un moment donné, effectivement, il faut... Faut regarder le monde en se disant, dans sa différence, dans sa diversité, et dans cette idée qu'on n'est pas obligé de tant consommer que
si on prend un exemple pratique, ils ont des métiers très physiques, par exemple les pêcheurs, dans ces univers-là. Et leur ration quotidienne au niveau de nourriture, que ce soit par exemple le riz et le poisson, si on prend ces deux exemples basiques qui existent dans toute la surface du globe, eh bien, elle va être en gros trois fois moindre que la nôtre. Pourtant, il y a des marins très grands, 1m80, enfin 90 même, il y en a d'autres des tout petits, ils vont tirer 5 km de filet, etc., ce qui est rare que l'on fasse à Paris. Et donc, ils sont pas mal nourris, ils sont pas dénutris, ils mangent en fonction de ce qu'ils ont, ça c'est sûr, mais aussi selon ce dont ils ont besoin. Et ça les empêche pas de tous les jours aller à la pêche, toutes les nuits tirer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois le filet. Voilà, c'est un peu comme l'histoire, alors je reviens un peu sur l'histoire de Joshua, à une époque on était persuadé que si les bateaux étaient lourds, ils étaient solides. Non. C'est pas parce qu'un bateau est lourd qu'il est solide. Et comme il y a eu les voitures américaines, on pensait qu'elles étaient solides, parce qu'elles étaient lourdes, etc. Donc on n'est pas obligé de manger autant pour faire des métiers qui sont souvent plus sédentaires, d'ailleurs, dans l'Occident. Alors eux, ils nous montrent cette différence-là. Regardons, observons, intégrons éventuellement. On n'est pas obligé de le faire, mais c'est une information.
Martyr Selin, Ludovic Fossard, merci et bon vent à tous les deux. Je rappelle le titre de votre ouvrage, À la rencontre des peuples des mers, paru chez Glénat. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver en podcast le reportage de Sybille Dorgeval à Caillard sur toutes les bonnes plateformes et sur le site de RFI.fr, rubrique podcast Si loin, si proche. Laure Allary, Céline Develay-Mazurel, on vous salue, chers auditeurs, et on vous dit à la semaine prochaine pour d'autres voyages, ici ou ailleurs. Bonne semaine à l'écoute de RFI.